Bonjour, j'espère que vous allez bien.
Bon.
Je suis pas en train de me cacher, là. Ça sera pas trop long. Attendez un peu, là, je sors mon épicerie. OK. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir... Attendez un petit peu. Pas de vous sentir, là, vous allez comprendre ce que je veux dire. De vous sentir comme un citron. Je me sens un petit peu comme un citron, moi, ce matin. Je me sens sous pression, là. J'ai du stress un petit peu, là. C'est pour ça que j'ai slacké la cravate. Laissé passer le... Oui, dans le jus, c'est ça aussi. La semaine passée, on avait commencé à regarder l'histoire d'Ézéchias et regarder comment est-ce que Dieu avait permis qu'il vive l'épreuve. Et de voir que, à nous aussi, des fois, on peut vivre des épreuves. On avait vu comment est-ce qu'Ézéchias avait été un roi fidèle. Comment est-ce qu'il avait remis les choses en place dans le pays? Comment est-ce qu'il aimait Dieu? Et malgré cela, il a été pressé comme un citron. Ou du moins, Dieu avait permis qu'il vive l'épreuve et qu'il soit éprouvé. Et il y a un autre texte justement sur Ézéchias qui est intéressant. On ne le verra pas ce matin, mais un texte un peu plus loin où est-ce qu'on voit qu'Ézéchias a été éprouvé par Dieu pour voir quel était l'état de son cœur. C'est pour la photo. Quel était l'état de son cœur? Et il a été éprouvé. Dieu a permis qu'il soit éprouvé dans un autre moment de sa vie. On ne lira pas cet épisode-là ce matin, mais il a été éprouvé dans un autre moment de sa vie pour voir justement où est-ce qu'il en était. Mais si on vient au début, à la même histoire que ce qu'on était la semaine passée, on va fermer la boucle ce matin. On voit que Dieu, des fois, permet qu'on soit éprouvé, qu'on soit pressé. Et Dieu nous prend, il prend nos vies, et pas pour notre mal. On voyait différentes raisons pourquoi les épreuves, des fois, arrivent. Et il y a des épreuves, des fois, qui sont relatives à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Dieu veut qu'on s'en sorte en les confessant, en obéissant. Mais il y a des épreuves aussi qui sont là à cause de l'état actuel du monde, où ce que la création souffre les douleurs de l'enfantement. Alors oui, il y a des famines, oui, il y a des tempêtes, il y a de la maladie, de la mort, et on est sujet à ça aussi, mais toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Il y a d'autres raisons aussi que Dieu veut châtier ses enfants, personnellement, parce qu'il les aime. On pourrait lire ça dans Hébreux 12, où ce que Dieu aime ses enfants, et c'est pourquoi il les châtie, c'est pour ça qu'il y a certaines occasions où ce que Dieu les éprouve, et presse le citron. Et il y a d'autres occasions aussi qui nous arrivent des épreuves à cause du témoignage fidèle. Et les épreuves ne sont pas mauvaises pour nous. Oui, elles font mal. Oui, elles sont difficiles parce que des fois, c'est la première fois que je l'essaye, je ne sais pas si ça va marcher. Dieu veut faire sortir ce qu'on a dans le cœur. Et ça, imaginons que c'était moi. C'était pas très réaliste, hein? Imaginons que ça, c'était moi. Et des fois, on a besoin d'être vraiment durement éprouvé pour voir... non, je ferai pas ça. Pour voir ce qu'on a dans le cœur. Lui, je le presserai pas parce que je pense que je serai pas capable. Mais il prend nos vies comme ça, puis il veut savoir qu'est-ce qu'on va faire dans ces occasions-là. On a vu à travers la... Excuse-moi, Yves, hein, je mets du jus partout. Il veut voir comment est-ce qu'on va se confier en lui. On a vu avec l'exemple d'Ézéchias qu'il s'est confié en l'Éternel. C'était une routine qu'il avait déjà, ce roi-là, cet homme de Dieu-là, un homme qui aimait son Seigneur, qui aimait son Dieu et qui lui obéissait avant que les épreuves arrivent, qui se confiait en l'Éternel déjà, qu'il avait des habitudes pour déjà se confier en lui. Et quand l'épreuve est arrivée, merci beaucoup. C'est bon. Et de voir comment est-ce que Ézéchias s'est confié en l'Éternel. Comment est-ce que, dans son épreuve, il n'a pas laissé aller l'occasion en se disant « Ah, pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Moi, je ne suis plus capable, je suis tanné. » Mais il s'est confié en Dieu. Et quand il a rallié ses hommes, il a fait quelques mouvements, et puis il a ramené ses hommes, puis il a dit « Prenez courage. » Parce qu'avec le roi d'Assyrie qui venait de l'attaquer, c'était l'épreuve en question, il y avait le roi d'Assyrie qui s'en venait, qui venait le prendre au piège, et le roi d'Assyrie était probablement la puissance mondiale du temps. où ce qu'il n'y avait pas personne qui résistait à la main du roi d'Assyrie, à son armée. Toutes les nations ont été détruites par lui. Les dieux, les idoles ont été renversés par le roi d'Assyrie. Et là, ce roi-là, par son serviteur, s'en vient voir Ézéchias à Jérusalem. Pourquoi est-ce que vous vous barricadez dans Jérusalem? Vous avez fermé les issues. Vous restez là. En quoi est votre confiance? Pourquoi vous restiez dans la détresse à Jérusalem? Mais Ézéchias, quand il a appelé ses hommes, il a dit, en nous, on a l'Éternel. C'est notre Dieu. C'est lui qui va nous délivrer. C'est lui qui va nous donner la victoire. Mais le roi d'Assyrie, c'est un bras de chair. Il se confie dans la chair, il se confie dans ses armes. Mais nous, c'est en l'Éternel. C'était en ça qu'Ézéchias avait placé sa confiance, qu'il le faisait déjà et qu'il le fait dans cette épreuve-là. Mais qu'est-ce que l'on fait une fois qu'on est dans l'épreuve? Dieu, des fois, permet qu'on vive, qu'on ait le citron pressé pour voir qu'est-ce qui arrive. Mais qu'est-ce que je fais quand que je suis pressé comme ça? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que je fais dans ces occasions-là? Je vais juste prendre une minute pour parler de quelque chose que j'ai reçu il y a quelques semaines. Ce que je trouve vraiment malheureux, ce que je trouve triste, c'est que pour adoucir un petit peu ce que c'est les épreuves, on aime se faire désaccroire. On aime croire que les épreuves n'existeront plus, qu'elles n'arriveront plus. On aime croire que les épreuves sont là parce que c'est Satan qui veut notre mal et c'est pas Dieu qui veut nous transformer. Et je recevais un PowerPoint qui s'intitulait « Dieu veut que je te dise ». Je ne dirai pas tout parce que je suis pas sûr que Dieu veut qu'il voulait vraiment dire ça. Mais ça dit par exemple, tous les aspects, ça commence comme ça, tous les aspects négatifs de ta vie aujourd'hui vont s'arranger cette année. Alors, on aimerait ça croire ça. Quelles que soient les tentatives de tes ennemis contre toi cette année, elles ne réussiront pas. Mes ennemis peuvent m'attaquer et puis peuvent me causer beaucoup d'angoisse. Mais je peux me confier en l'Éternel aussi. Tu as été destiné à vaincre, c'est vrai. Dieu m'appelle à la victoire et m'a donné la victoire et tu atteindras certainement tous tes objectifs cette année. Malheureusement, c'est pas vrai. Pour les mois restants de l'année en cours, toutes tes souffrances seront déviées de ton chemin et la victoire et la prospérité viendront à toi en abondance. C'est malheureux, mais ce n'est pas vrai non plus. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que même c'est ça que l'on veut? Dans un sens très humain, on ne voudrait pas être éprouvé, on ne voudrait pas souffrir, on ne voudrait pas vivre de pleurs, d'angoisse. Mais si on se souvient de l'illustration que j'avais amenée la semaine passée, où ce que si Dieu me place un collet cervical, c'est pour réparer mon état, c'est parce que j'en ai de besoin, c'est la perspective que je dois en avoir. Mais pourquoi est-ce que Dieu permet que je vis cette souffrance-là? Ben, c'est pour mon bien. Mais est-ce que je veux que toutes les souffrances soient déviées de mon chemin? Aujourd'hui, Dieu a confirmé la fin de tes souffrances et de tes peines. Bon, je vais arrêter là. c'est trop. C'est pas biblique. C'est pas les Écritures. Et le courriel terminant en disant... envoie ce courriel à cette autre personne qui, eux aussi, pourront bénéficier. Mais surprenamment, je ne l'ai pas envoyé à personne. Mais je relève cette chose-là ce matin pour dire que ça existe des gens qui veulent croire et faire croire que l'épreuve ne viendra plus. Que l'épreuve a fait mal puis que Dieu t'a destiné à vaincre, donc tu n'auras plus d'épreuve. Mais c'est faux. Malheureusement, il y a des épreuves qui viennent. Malheureusement, dans un point de vue humain, mais heureusement pour notre vie spirituelle aussi. Dieu, il est là. À travers nos épreuves, Dieu est là. Il marche avec toi dans la vallée de l'ombre de la mort. Il t'accompagne. Puis Dieu, il est là. Puis il ne faut pas perdre cette foi-là, cette confiance-là que Dieu est là. Souvent, dans un moment d'épreuve, on aurait l'impression peut-être d'être tout seul, mais Dieu, il est là. Puis écoute. C'est ça qu'on va voir ce matin. Comment j'agis quand que Dieu presse le citron? Qu'est-ce que je fais dans l'épreuve? Et je ne sais pas combien de temps peut durer une épreuve, votre épreuve. Peut-être qu'elle peut durer un court temps, peut-être un long temps. Mais qu'est-ce qu'on fait dans l'épreuve? Qu'est-ce que l'on fait à travers cette épreuve-là? C'est ce qu'on va voir ce matin en terminant l'histoire d'Ézéchias. J'aimerais qu'on prie, puis après on va tourner dans 2 Rois, chapitre 19. Seigneur, on vient devant toi pour te louer. On vient devant toi pour t'adorer. Tu es notre Dieu. Tu es celui qui nous accompagne, Seigneur, et on veut te louer, on veut te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et Seigneur, je te prie que tu puisses parler à nos cœurs ce matin. Tes Écritures nous disent que tu es là. Tes Écritures nous disent que tu nous accompagnes, que tu ne nous abandonnes pas. Merci, Seigneur. Dans le nom de ton Fils qu'on te prie. Amen. Merci pour la guenille, Frédéric. 2 rois 19. Je vais en presser un autre citron en attendant que vous tourniez. Celui-là, on pourrait l'appeler, comment est-ce qu'on l'appelle? On pourrait l'appeler le monde. Mettez votre nom dessus. Vous allez comprendre pourquoi j'en presse 2 au moins. Vous allez comprendre un petit peu plus tard. Il faudra que je lave mon habit. Dieu permet que notre citron soit pressé pour voir qu'est-ce qui va en sortir et surtout pour voir comment est-ce qu'on va agir aussi dans l'épreuve. Qu'est-ce qu'on va faire? 2 rois 19, on va continuer la suite du roi Ézéchias. Le roi Ézéchias était dans Jérusalem. Il y avait le serviteur du roi d'Assyrie qui vient pour menacer Ézéchias et dire que l'Éternel est pas plus grand que les autres idoles des autres nations qui ont tous été renversées. Puis oubliez l'Éternel, il vous sauvera pas de ma main. Et là, on arrive au verset. On va lire les 3 premiers versets pour commencer. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Éliakim, chef de la maison du roi, Chebna, le secrétaire et le plus ancien des sacrificateurs, couvert de sac, vers Isaïe le prophète, fils d'Amos. Et ils lui dirent, « Ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre. Car les enfants sont prêts à sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. » On est confronté des fois à des situations dans nos vies où ce que comme Ézéchias s'y dit, la femme est sur le point d'accoucher, mais il n'y a pas de force. L'enfant, il est prêt à sortir, mais on n'est pas capable. On se sent dépourvu. Il pourrait y avoir du découragement. Il voit humainement une impossibilité devant lui. Ou ce qu'il dit, c'est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre. Et on ne sait plus quoi faire devant cette situation-là. La première chose que je veux relever de l'attitude d'Ézéchias, de ce qu'il a fait, c'est que il a exprimé ses sentiments à Dieu. Je vais vous expliquer le point de ce que je veux dire. Regardez le verset 1. Qu'est-ce qu'Ézéchias a fait quand il a entendu ces paroles-là? Il a déchiré ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. C'était le moyen qu'Ézéchias et les hommes du temps qu'ils avaient des fois dans l'Ancienne Alliance de déchirer leurs vêtements par indignation de ce qu'il entendait. L'opprobre de ceux qui t'insultent est tombé sur moi. Et Ézéchias entend les paroles de ce que le serviteur dit de l'Éternel. Et puis il dit, c'est pas vrai. Il n'est pas en train de dire ça. Et certainement qu'en même temps, il y a de l'angoisse, comme ce que lui-même vient de dire. Il déchire ses vêtements, se couvre d'un sac et montre à Dieu son humilité, son désarroi, son découragement. Et est en train d'exprimer à Dieu son sentiment avec les anciens d'Israël qui sont couverts d'un sac et s'est rendu dans la maison de l'Éternel. Ézéchias, ce qu'il savait, c'est que Dieu est là. Quand vient une épreuve comme ça, on pourrait avoir ce sentiment-là d'incapacité. De « je ne suis pas capable. C'est impossible pour moi. J'ai l'impression que je ne serais pas capable. » Et quand ce sentiment-là vient toucher le cœur de nos vies, où ce qu'on a l'impression qu'on a perdu tout contrôle sur nos vies, où ce que l'épreuve nous semble à nos yeux humainement impossible, on a l'impression qu'on ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? On a l'impression que rien ne peut se faire et puis on devient vraiment inconfortable aussi à ce moment-là. Et peut-être que humainement, on devient, à travers les épreuves, il y a un danger qui nous guette. Que de soulager cet inconfort-là, cette incapacité-là, par des moyens très humains. Qui revient à dire un peu qu'on ne se confie pas en l'Éternel, mais on cherche à soulager un mal. On cherche à échapper de par nos pensées à quelque chose qui nous dérange, quelque chose qui nous fait de la peine, quelque chose qui nous fait peur, qui nous angoisse. Et on pourrait tomber humainement dans des différentes soupapes, où est-ce qu'on va se donner dans le travail, où est-ce qu'on va se donner dans des médicaments, où est-ce qu'on va se donner dans quelque chose qui finalement va juste soulager un mal et qu'on n'aura pas pris le temps d'exprimer à Dieu notre découragement. C'est ça qu'Ézéchias a fait quand il a entendu les paroles. Il a déchiré ses vêtements, il a pris un sac puis s'est rendu à la maison de l'Éternel pour montrer à Dieu comment son état d'âme était, pour montrer comment ce qu'il était découragé. Et il a envoyé des serviteurs aussi pour aller voir Ésaïe. Ce qu'Ézéchias savait, qu'il n'avait pas oublié, c'est que Dieu est là. Dieu est là pour écouter. Dieu y voit. Dieu écoute. Dieu s'intéresse à ses enfants. Dieu y console. Dieu y rassure. Dieu est là pour écouter nos sentiments. Et quand on vit une épreuve ou une difficulté, on doit saisir cette occasion-là que de se rendre à Dieu pour lui exprimer nos sentiments, nos difficultés. Et on a plein d'exemples dans les Écritures que David lui-même faisait. Je vais juste vous en citer un, psaume 6, 6 à 10. « Je m'épuise à force de gémir chaque nuit. Ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. » Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Dieu est là dans ces moments d'épreuve-là, où ce qu'il entend même la voix de nos larmes. Dieu est là, Dieu est présent, puis il veut qu'on lui verbalise, il veut qu'on prenne un temps avec lui. Mais souvent, ce qu'il arrive, c'est que si on ne prend pas le temps de verbaliser à Dieu notre découragement ou nos sentiments qui sont suscités par l'épreuve, on transforme ça de façon très humaine et plutôt que de le verbaliser à Dieu et d'avoir un entretien avec lui, on murmure, puis on chiale, puis on manifeste notre découragement. C'est ce qui est arrivé avec le peuple d'Israël, vous vous souvenez? Reculez, regardez un doigt dans deux rois. Et je vais juste lire un exemple. Dans Nombre. À partir du chapitre 13, verset 30. J'ai pris un exemple flagrant, un exemple évident du peuple de Dieu qui sortait de l'Égypte, qui avait cette bénédiction-là d'être affranchi de l'esclavage, de sortir de cet endroit-là de misère pour traverser le désert dans le but de se rendre dans la terre promise, ce qui était le plan de Dieu. Avant d'arriver dans la terre promise, ils devaient passer le désert et puis ça n'a pas fait leur affaire. Ça les a découragés. Cette petite épreuve-là qui les amenait petite épreuve, j'étais pas là, mais l'épreuve qui les amenait finalement à une grande occasion de bénédiction. Nombre 13, à partir du verset 30. C'était après le rapport des espions de Canaan. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Ils étaient sur les bords de la terre promise. Et Caleb, il veut agir en vainqueur, il veut agir comme ce que Dieu leur a indiqué. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux, comme des sauterelles. On continue chapitre 14, les trois premiers versets. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, « Que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Le peuple d'Israël est confronté à une pression où ce qu'ils ont devant eux des géants. Ils ont devant eux le peuple, le pays, la terre promise que Dieu veut leur donner, mais il y a des géants dedans. Et puis par cette épreuve-là qu'ils doivent franchir, ce test-là de leur foi, et de s'avancer, de conquérir la terre que Dieu veut leur donner, ils ont peur. Ils pleurent toute la nuit, et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils murmurent, ils chialent. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Pourquoi est-ce que Dieu a permis ça finalement? Pourquoi est-ce que Dieu nous a sortis d'Égypte pour nous amener là, que nos femmes, nos enfants, puis nous-mêmes, on va tous mourir là-dedans? Ils étaient découragés et commençaient à verbaliser dans leur épreuve, dans leur découragement, l'aspect négatif que Dieu est en train de leur imputer du mal, Dieu leur veut du mal, et c'est faux. à travers cette épreuve-là, ce test-là qui est là, Dieu leur réserve multiples bénédictions, mais ils chialent contre Dieu dans leur épreuve. Est-ce que ça leur a coûté cher, ça? 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. Pendant qu'ils étaient dans le désert, vous souvenez-vous pourquoi les serpents brûlants sont venus? Parce qu'ils chialaient contre Dieu. On est dans le désert, ils chialaient parce qu'ils devaient contourner les Édomites, le pays d'Édom. Et puis là, la voie est un petit peu plus longue que d'habitude, finalement, parce qu'on aurait préféré couper à travers, puis là, on peut pas. Puis là, ils commencent à murmurer, on n'a plus de pain, on n'a plus d'eau. Puis Dieu envoie des serpents brûlants. Est-ce que ça leur a coûté cher? Oui, ça leur a coûté cher. Il y a eu des morts à cause de ça. À cause que dans ce moment d'épreuve-là, ils n'ont pas agi comme ce que Dieu aurait voulu qu'ils agissent. Plutôt peut-être que de verbaliser, j'ai deux exemples que je vais juste citer, Josué, Daniel, des hommes de Dieu qui, quand ils sont découragés, qu'est-ce qu'ils font devant Dieu comme Ézéchias? Ils s'en vont à genoux, puis ils prient Dieu. Dieu, on est découragé. Josué, si vous pourriez lire ça dans Josué 7, versets 6 et 7, Josué, il se place devant Dieu, puis il est découragé. Comment ça se fait, Dieu, qu'on vit ça? On aurait-tu été mieux de rester au bord du Jourdain? Finalement, on vient de se faire attaquer à cause du péché d'un homme. Il ne savait pas encore, mais ça s'en venait. Il est découragé, mais il verbalise à Dieu son découragement, son sentiment. Il veut un entretien avec Dieu. Et ça, ce n'est pas que de chialer, mais c'est de demander à Dieu d'entretenir cette relation-là et de désirer avec Dieu un entretien où ce que Dieu, fais-moi du bien, là. J'ai besoin de voir que tu es là dans mon épreuve et je vais t'exprimer mes sentiments. Mais le peuple, comme d'autres exemples qu'on peut lire dans les Écritures, dans l'épreuve, plutôt d'exprimer leurs sentiments à Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils chialent. Et en faisant ça, à quoi ressemble le jus de leur cœur si on en prend une gorgée? Il faut imaginer que ça goûte. Ça étanche pas beaucoup la soif. C'est acide, c'est amer, c'est pas bon. Qu'est-ce qui va sortir de nos cœurs? Qu'est-ce que je vais faire quand l'épreuve vient? J'ai besoin de savoir que Dieu est là, que je peux lui confier mes sentiments, mes difficultés. Dieu est intéressé à ce que tu vis. Ézéchias montrait son indignation face aux paroles du roi d'Assyrie. Humainement, il ne savait pas quoi faire. La femme est prête à accoucher, mais elle n'a pas de force. Dieu intervient. Et quelle angoisse qu'il pouvait y avoir, cet homme-là, mais il a interpellé Dieu. Il s'est présenté devant Dieu avec son humiliation, puis il a exprimé à Dieu comment est-ce qu'il se sentait. Dieu, il est là, puis il veut que tu t'allies dans l'épreuve d'homme et de femme de Dieu. Qu'est-ce que je fais dans les épreuves? J'ai besoin de frères et de sœurs qui aiment le Seigneur, qui vont m'épauler, qui vont marcher avec moi, qui vont m'accompagner. Non seulement je vais exprimer à Dieu mes sentiments, mais je vais me rallier aussi des gens qui aiment Dieu, qui aiment l'Éternel, puis qui vont m'accompagner. On va relire, revenez dans 2 Rois. On va relire les versets à partir du verset 2. On va lire jusqu'à 5. Il envoya Éliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amos. On comprend bien que c'est tout Israël, tout Jérusalem qui est éprouvé à cette heure-là. Mais particulièrement, la pression est sur le roi. Mais le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il s'allie d'hommes auprès de lui et envoie des gens vers le prophète Ésaïe. Et ils lui dirent, « Ainsi parle Ézéchias, c'est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts à sortir du sein maternel. Il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshaké, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant? Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues? Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. » Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Ézéchias envoie des hommes, il se rallie d'hommes près de lui, qui sont les plus anciens d'Israël, qui sont eux aussi couverts de sacs. Il envoie ses serviteurs vers le prophète Ésaïe, qui est un homme de Dieu. Il dit, ton Dieu, mais certainement que c'est le même Dieu aussi qui appartient à Ézéchias, ou ce qu'ils servent les deux, le même Dieu. Et puis, Ésaïe, prie avec moi. Fais monter une prière à Dieu. Peut-être que Dieu a entendu les paroles de ce que Rabshaké a dit pour le roi. Puis fais monter une prière. mais lutte avec moi dans la prière, accompagne-moi. Faut qu'on implore l'Éternel, faut qu'on soit ensemble où est-ce qu'on va interpeller Dieu puis qu'on va demander son aide. Regardez, gardez encore un doigt dans 2 Rois 19, puis on va aller rapidement. J'ai juste un verset à vous lire. Mais Galates 6, 2. C'est important d'avoir des gens près de nous qui aiment Dieu, puis qu'on sait qu'ils sont prêts à nous accompagner. Dans les épreuves, Dieu désire qu'on ait des gens près de nous pour nous accompagner, pour nous encourager, pour prier pour nous. Et c'est une chose qui est bonne pour nous. Et Dieu manifeste qu'il est là aussi à travers les frères et les sœurs qui nous accompagnent, à travers vous qui vous pouvez être vous aussi un encouragement pour quelqu'un qui est dans l'épreuve ou ce que Dieu veut vous utiliser pour prier pour une personne, pour l'encourager. Et regardez Galates 6, 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez quoi? La loi de Christ. Ainsi la loi de Christ. Ce que Dieu veut que l'on fasse, c'est qu'on porte les fardeaux les uns des autres. Qu'on s'épaule les uns les autres dans nos difficultés, dans nos épreuves. Où est-ce qu'on va se rallier d'hommes et de femmes qui aiment Dieu? Et pourquoi je dis d'hommes et de femmes qui aiment Dieu? Parce que c'est facile d'avoir des gens près de nous qui vont nous dire des choses qu'on voudrait entendre. Comme ce que j'ai lu tantôt. Tu n'auras plus d'épreuves jusqu'à la fin de l'année. Ça va bien aller. Ça fait du bien entendre ça. Hein? Ça satisfait notre chair, si je peux dire. Et puis, ça nous fait désaccroire où est-ce que pendant un temps, ça va mettre un bombe. Mais quand la réalité va revenir, ça va nous faire mal. Mais si on a des hommes et des femmes de Dieu qui nous disent peut-être pas toujours ce qu'on aimerait entendre, mais ce qui est bon pour nous, ce qui va nous accompagner, ce qui va nous aider, ce qui va nous ramener peut-être sur la vérité, mais c'est ça qu'on a de besoin. Job, il y avait des hommes, des hommes près de lui, où ce que Dieu porte un constat à la fin, il parle à un des amis, il dit, toi et tes deux amis, vous n'avez pas parlé droitement de ma justice et de moi. Ils n'ont pas parlé droitement de Dieu. Et j'ai besoin d'hommes et de femmes de Dieu qui vont parler droitement de Dieu et qui vont m'encourager aussi dans le bien, à faire le bien. C'est ce que Ézéchias a fait, où ce qu'il a interpellé les plus hauts d'Israël, les plus hauts de Juda avec lui, en ayant les sacrificateurs, les plus anciens sacrificateurs, en interpellant Isaïe. Puis il dit, là, il faut qu'on aille ensemble à Dieu, puis qu'on l'interpelle. Il faut qu'on lutte ensemble, dans cette épreuve-là qui est devant nous. Revenez dans 2 Rois 19. Quand on vit une épreuve, peut-être notre tendance humaine serait de la soulager, soulager l'inconfort, soulager la pression le plus rapidement possible. On voudrait que Dieu arrête de presser le citron, puis on voudrait croire que finalement, il ne presse pas tant que ça, ou que Dieu va arrêter de le faire, il ne le fera plus jamais. Mais Dieu permet que le citron soit pressé. Mais comment j'agis dans l'épreuve? Dieu est là, puis Dieu veut que je lui exprime les sentiments qu'il y a dans mon cœur, plutôt que de me plaindre, que de chialer. Il veut que j'ai une relation avec lui. Dans l'épreuve, Dieu veut m'accompagner aussi avec des hommes et des femmes qui aiment Dieu et de s'épauler ensemble les uns les autres. C'est une expression qui revient beaucoup dans le Nouveau Testament où ce que Dieu désire que les uns les autres, on prenne soin les uns des autres ensemble. C'est pour ça que Dieu a formé un corps, pour que si un membre souffre, qu'est-ce que le reste du corps fait? Il souffre lui aussi. Tout le monde s'est tapé sur le pouce à un moment donné avec un marteau, mais tout le corps souffre avec le pouce. Parce qu'il a été frappé. Et qu'est-ce qu'il fait, le corps? Ben, on ne rit pas de lui, mais on le prend, l'autre main vient, on l'approche près de nous, proche du cœur, puis on le réconforte. Ça va bien aller, ça va. Et là, on sent le pouce, pou, 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 pou. Puis là, on le réconforte, et tout le corps souffre avec. C'est ça, la loi de Christ. C'est l'amour qu'on va porter les uns pour les autres dans nos difficultés, dans nos faiblesses, ou ce qu'on va s'épauler les uns les autres ensemble. C'est ce qu'Ézéchias a fait. Dieu est là, puis Dieu veut qu'on lui demande son intervention, puis qu'on attende son secours. Dieu veut intervenir dans nos vies, mais Dieu veut qu'on lui demande. Puis malheureusement, ce qui arrive souvent, c'est qu'on tarde à demander à Dieu qu'il intervienne. On tarde parce qu'on essaye par des moyens humains, on essaye par différentes circonstances, puis on oublie que rapidement, on devrait aller à Dieu, puis de demander son secours, de demander qu'il vienne nous sauver, qu'il nous accompagne, qu'il intervienne, qu'il nous donne son salut, sa libération dans l'épreuve. Et on oublie que c'est ce qu'on doit demander à Dieu rapidement. Et je ne sais pas si je vous ai demandé de revenir dans 2 Rois, hein, mais allez plutôt dans 1 Pierre. Un texte qu'on connaît beaucoup, qu'on cite, et puis peut-être qu'on devrait mettre en pratique plus souvent aussi. 1 Pierre 5, avant qu'on ait terminé l'histoire d'Ézéchias, Dieu dans l'épreuve, il veut que j'agisse d'une façon qui va faire que l'épreuve va devenir positive pour ma vie. Ou est-ce que l'épreuve ne va pas rester en jus de citron, puis est-ce que c'est pas bon. Mais où est-ce que Dieu veut intervenir puis veut transformer cette situation-là pour mon bien, même pour sa gloire. Et dans 1 Pierre 5, 6 et 7, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Dieu veut prendre vos soucis. Ce qui vous inquiète, ce qui vous fait peur, votre épreuve, Dieu, il veut prendre vos soucis, il veut prendre votre fardeau qui pèse lourd sur vos épaules, il veut que vous déchargiez sur lui. Et des fois, on demande à Dieu, prends mon épreuve, prends ma difficulté, prends mes soucis, mon fardeau. Et puis en même temps, Dieu me dit, mais donne-moi-le, décharge-toi sur moi de mes soucis, donne-moi-le. C'est ce que je dois faire, mais de m'humilier aussi sous la puissante main de Dieu, où ce que je reconnais que Dieu est là, où ce que je reconnais que c'est pas un bras de chair qui est près de moi, c'est le bras de l'Éternel, et puis la puissante main de Dieu, quand je m'humilie sous lui, il fait des miracles avec ma vie, avec les épreuves même qui peuvent être dans ma vie, et quand je m'humilie sous sa main, et là, qu'est-ce que je fais? Je me décharge sur lui de tous mes soucis, parce qu'il va m'élever aussi au temps convenable si je m'humilie. Et car lui-même, qu'est-ce qu'il fait lui-même? Car Dieu lui-même prend soin de toi. C'est assez personnel. Dans l'épreuve, Dieu est là, car lui-même prend soin de toi. Dieu, il est là, il ne t'a pas oublié, il t'accompagne encore, et puis il prend soin de toi. Il veut que tu t'humilies devant lui, il veut que tu te décharges de tes soucis, et c'est ce que Ézéchias a fait. Revenez dans 2 Rois 19. Rabshaké, le serviteur du roi d'Assyrie, est revenu à la charge avec des insultes pour l'Éternel, pour le roi. Puis ton Dieu, c'est personne. Ton Dieu, il n'est pas meilleur que les autres dieux. Il revient avec une lettre qu'Ézéchias, bon, on va le lire ensemble. 2 Rois 19, à partir du verset 14. Dans les versets 8 à 13, on voit que Sanchérib lance un défi à Dieu. Mais au verset 14, on voit que, on va lire 14 à 19. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de toutes les nations, de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Rabshaké pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux. C'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont réduits à rien. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Ésaïe prend sa lettre et la déploie devant Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? En la lisant à Dieu, il glorifie Dieu, il honore Dieu, il loue Dieu parce qu'il est le seul Dieu, le Dieu vivant, il est l'Éternel. Et puis il est en train de lui dire, on est désemparé, parce que c'est vrai que la Syrie est un peuple fort. C'est vrai qu'ils sont puissants. C'est vrai qu'aucune nation n'a résisté à leurs mains. Et humainement, sans toi, on est comme les autres nations devant leurs mains, où est-ce qu'on court à notre perte. Mais toi, Dieu, tu es vivant. Tu as entendu ce que lui a dit. T'as entendu ce qu'il a dit de moi, t'as entendu ce qu'il a dit de toi, et puis intervient. Ézéchias est en train de se décharger du poids, est en train de se décharger de cette angoisse-là où ce qu'il dit, Dieu, faut que tu interviennes. C'est toi qui l'insultes. Cette épreuve-là que je vis, cette épreuve-là que Jérusalem vit, que Juda est en train de vivre, Dieu, on te la donne parce qu'on n'est pas capable. Intervient. Il demande son aide, le glorifie, il adore Dieu. Et est en train de dire à Dieu, le roi, c'est à toi qui est en train de parler. Puis il faut que tu interviennes maintenant. Puis on est pris. Et il s'est déchargé sur Dieu de son souci. Et il attendait le secours de Dieu. Il attendait, il devait attendre maintenant. Une fois qu'il a exprimé à Dieu ce qu'il voulait, qu'il a fait sa requête, Dieu intervient. Ézéchias savait que Dieu est là. Il savait qu'il pouvait se décharger. Il savait qu'en déployant cette lettre-là devant Dieu, que Dieu allait l'entendre. Et Dieu, savez-vous quoi? Il l'a entendu. Et puis la fin s'en vient. Mais comment est-ce que nous, on agit dans nos épreuves? Est-ce que l'on sait que Dieu est là? Oui, on sait, mais est-ce qu'on agit comme si Dieu est là aussi? Ou est-ce qu'on demande rapidement son secours dans l'épreuve, dans la difficulté? Ou est-ce qu'on attend aussi son secours? La foi est synonyme d'attente. Parce que si j'ai confiance en Dieu, je lui ai exprimé, je continue de verbaliser peut-être mes angoisses, mes difficultés, mais j'attends son secours. J'attends ce que Dieu va faire dans ma vie. Comment est-ce qu'il va intervenir? On va aller lire tout de suite la fin, à partir du verset 32 à 37. On ne peut pas tout lire parce que c'est un texte historique. Il y a beaucoup de choses qui est dit, mais Dieu parle par Isaïe. Pour Ézéchias et le peuple. Et on entend qu'est-ce que Dieu va dire. À partir du verset 32 du chapitre 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il ne lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin de lequel il est venu, et n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens. 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit, s'en retourna et resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adrammélec et Charesser, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Arara. Et Hazar-Adon, son fils, régna à sa place. Est-ce que Dieu est intervenu? Dieu est intervenu. Puis Dieu lui a dit, « Ainsi parle l'Éternel au roi d'Assyrie, tu toucheras pas à ma ville, tu toucheras pas à mon peuple. » Parce que mes serviteurs sont là, puis mes serviteurs me sont encore fidèles, puis m'honorent, m'ont demandé mon secours, et puis on voit aussi par la suite de l'histoire que Dieu parle aussi au roi d'Assyrie en disant, « Tu t'es enorgueilli, puis maintenant tu es humilié. Tu vas même pas élever un bouclier contre ma ville. » Pendant la nuit, combien d'hommes est-ce qu'Ézéchias a envoyé à l'extérieur pour se battre? Aucun homme. L'ange de l'Éternel est sorti, puis a tué combien d'hommes? 185 000 hommes. Imaginez être dans les souliers de Sanchérib qui se lève le matin puis qui voit 185 000 hommes qui sont morts, qui ne se lèvent plus. Et il a compris que l'Éternel, sa prière, la prière d'Ézéchias, regardez verset 19, « Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. » Est-ce que c'était évident, ce point-là? C'était évident. Ézéchias s'est confié en Dieu. Ézéchias savait que Dieu était là et il lui a exprimé son désarroi, son angoisse, a montré à Dieu qu'il était désemparé et en se couvrant d'un sac. Et aussi, il s'est rallié des hommes autour de lui où ce qu'ils ont dit, on va implorer Dieu ensemble. Il savait que Dieu allait répondre et il savait que Dieu était là aussi. Et puis, il a prié Dieu puis il a attendu son secours. Puis Dieu est intervenu aussi dans sa difficulté. Il y a des choses sûrement dans nos vies, chacun d'entre nous, Peut-être que c'est pas une grosse épreuve. Peut-être c'est une petite difficulté. Peut-être qu'on sent la pression sur nos vies ou ce que Dieu nous teste, nous éprouve. La pression est forte ou peut-être plus faible, mais Dieu veut qu'on agisse comme ce que lui nous l'encourage dans ses Écritures, dans l'épreuve. Pour que quand que le jus va sortir, que ce qui va sortir de nos vies soit le reflet d'une relation aussi avec Dieu. Parce que si je ne mets pas Dieu dans l'équation de ma vie, qu'est-ce qui arrive? Il sort des choses de ma vie où ce n'est pas buvable. Mais quand Dieu intervient, puis que je lui confie ma vie, Dieu fait des miracles avec mon jus, puis avec mes épreuves, avec ce qu'il a sorti de mon cœur. Je mets un petit peu d'eau, un petit peu de sucre. Puis qu'est-ce que ça fait? Une bonne limonade. Et là, ça va être bon, j'espère. Il y a des noyaux encore dedans, mais... C'est moins pire. En tout cas, il y a besoin un petit peu d'ajustement, non? Mais c'est moins pire que tantôt. C'est ça que Dieu veut faire avec vos vies. C'est ça que Dieu veut faire avec ma vie. Ou ce que dans l'épreuve, en agissant avec fidélité à Dieu, avec confiance à l'Éternel, ou ce que si je demande à Dieu d'intervenir, et puis plutôt que de me plaindre, j'exprime à Dieu ce que je vis. Je demande à Dieu qu'il m'accompagne, même avec des frères et des sœurs, pour lutter avec moi, pour porter les fardeaux les uns des autres, et que je prie Dieu et que j'attends son secours. Dieu, quand il intervient dans ma vie, il fait de la limonade avec ce qui en est sorti, de la pression sur mon citron. Et c'est quelque chose qui est bon. C'est quelque chose qui est beau. Et l'épreuve devient bonne ou ce que j'en sors grandit plutôt qu'atterrir. Évidemment, Dieu ne veut pas qu'on reste atterré, mais il nous appelle constamment à dire, si le citron continue d'être pressé, confie-toi en moi. Peut-être que rapidement, j'ai des choses à comprendre. Peut-être que rapidement, j'ai des choses à confesser. Peut-être que je ne délaisse pas des choses. Peut-être qu'il y a des choses que je ne veux pas me décharger sur Dieu, que je pense être capable encore de régler de par moi-même. Et que Dieu dit non, je le tiens, tu ne seras pas capable de par toi-même. Demande mon aide. Décharge-toi sur moi. Qu'est-ce que je n'ai pas encore laissé à Dieu? Qu'est-ce que je veux contrôler encore dans ma vie ou ce que je dis, Dieu, c'est correct, je suis capable de m'en sortir encore par moi-même. C'est pas ce que Dieu veut. Parce que si Dieu continue de presser ce temps, on va m'amener à un point où ce que je suis vraiment plus capable. Mais Dieu, rapidement, veut intervenir dans ma vie. Il veut me faire grandir avec mon citron pressé. Il veut faire de la limonade avec ma vie, des choses qui sont bonnes. J'aimerais prendre un temps. J'ai pensé, il y a une chanson que j'aime beaucoup de The Cry, qui est en français. J'aimerais qu'on prenne un temps. Ça marche-tu, Richard? J'aimerais qu'on prenne un temps ce matin pour nos vies personnellement, pour sonder nos cœurs, sonder nos vies. Qu'est-ce que j'ai pas laissé à Dieu? De quoi je ne me suis pas déchargé encore? Quelle épreuve que je suis en train de vivre présentement puis que j'ai besoin de confesser peut-être des péchés parce que j'ai mal agi? Ou j'ai besoin de ranimer ma foi en Dieu pour dire « Dieu, intervient parce que je ne suis pas capable. Sors-moi de cette épreuve-là. » Alors, dans ce temps-là, que pendant que le chant va jouer, il y a les paroles qui vont apparaître aussi. Vous pouvez les lire, mais prenez un temps. Prenons un temps individuellement. Vous pouvez garder les yeux fermés. Priez pour vous-même. Écoutez les paroles du chant qui peuvent vous amener à vous confier en Dieu. Et puis, confessez les choses. Et même glorifiez Dieu à travers les épreuves peut-être que vous avez déjà vécues. Et après ce temps-là, on terminera.
J'ai besoin d'amour. Quand j'ai besoin de paix. Quand j'ai besoin de compréhension. Seigneur, tu l'as. J'ai besoin d'espoir. Seigneur, tu es là. pleurer. Tu me fais chanter, même quand mon cœur est brisé. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin de compréhension. Seigneur, tu es là. Et quand j'ai besoin d'espoir, j'ai besoin de grâce, j'ai besoin d'une autre chance. Seigneur, tu es là. Tu me fais sourire, même quand j'ai le goût de pleurer. Yeah. Tu me fais chanter, même quand mon cœur est brisé, brisé, yeah, yeah. Tu es mon seul refuge quand le ciel se couvre. Je sais que le soleil chante pour toi, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Yeah. Oh, je chante pour toi, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Oh, tu es là, Seigneur.
Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer. C'est vrai que tu es là. Tu prends soin de nous. Tu nous accompagnes en toutes circonstances et tu nous aimes. On veut te dire merci pour ça. On veut te glorifier parce que tu sais c'est quoi qui est bon pour nos vies. Tu sais c'est quoi qu'on a de besoin. Et on veut te louer pour tout ce que tu permets qui nous arrive dans nos vies. Seigneur, on veut s'engager en même temps à agir avec fidélité dans les épreuves, à ne pas se plaindre, mais à t'interpeller, Dieu, à te demander ton aide, à ce que tu vois notre cœur, notre découragement, et on veut se confier à toi, Seigneur, et attendre ton secours aussi. C'est dans le nom de ton Fils qu'on te prie ces choses. Amen.